Bonsoir à tous. Je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Bonjour au public et merci de venir aussi nombreux. Ça fait plaisir. On se sent moins seul au sein de ce beau conseil, même si nous sommes nombreux. Mais ça permet en tout cas voilà, à la population de prendre connaissance des débats et éventuellement de les relayer dans la commune. Je commence par une nouvelle un peu triste, puisque nous avons appris hier le décès de M. Francis Thomas, qui a été, certains d'entre vous le connaissent, qui a été maire de Carnac entre 1998 et 2001. Et donc je vais tenter de lui rendre hommage. C'était une personnalité très attachante, Francis, un grand sportif. Il a succédé à Olivier Buquin, qui est absent ce soir, comme maire entre 1998 et 2001. Il était... quelqu'un de très impliqué à la fois dans la vie de sa commune après sa retraite, mais il a eu une carrière assez prolifique. Il était officier de l'armée de terre et il a été professeur à Saint-Cyr-Côte-Quidan, professeur également à l'école d'application de l'artillerie de Montpellier, rédacteur en chef des cahiers de l'infanterie. Et après sa retraite, il a exercé également un grand nombre de fonctions, notamment au Conseil économique et social à Paris, mais également il a été directeur de l'association départementale des palmes académiques et il a présidé un grand nombre d'associations carnacoises, dont d'ailleurs Agriculture. Il a été président d'honneur de l'UNC, hein, des anciens combattants, et il a été président des anciens et retraités aussi de la commune. Pour terminer, il a également été, et ce n'est pas la moindre de ses contributions pour la commune, il a été également président fondateur du CIVU et du centre de secours de Carnac. Pour ceux qui le connaissaient, nous avons connu Francis Thomas le retraité, mais dans sa jeunesse, ça a été un très grand sportif. Il a été impliqué dans le mouvement olympique. Il a pratiqué pas mal de sports. Je crois que, je ne sais pas si Philippe, il était très bon au ping-pong, non ? Ouais, parce que je me souviens de conversations avec lui au ping-pong. Il avait un niveau quasiment pas loin du national, non, quand il était jeune. Ouais, non, c'était quelqu'un de vraiment attachant, et donc il a eu voilà. Je vais pas vous dérouler l'ensemble des fonctions qu'il a occupées dans le monde sportif, mais que ce soit dans le mouvement olympique, il a été trésorier de la francophonie sportive internationale lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988. Enfin, c'était quelqu'un de voilà qui a eu une vie passionnante. Je crois qu'il avait 93 ans. C'est quelqu'un que j'aimais, que je connaissais pas bien, mais que j'avais toujours plaisir à le croiser dans les rues de Carnac. Sa santé était assez déclinante depuis déjà de nombreuses années. Donc il nous a quittés hier. Et je vous propose donc une minute de silence en son honneur, puisque, je le rappelle, il a été maire de cette commune pendant 3 ans. Suite à la succession de Olivier Buquin. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose une minute de silence en la mémoire de Francis Thomas. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour ceux qui le souhaitent, les obsèques auront lieu mardi prochain, 27 décembre, à 14h.
Mercredi.
Non, c'est le 20. Moi, j'ai le. Non, j'ai le 27-12.
Mercredi. 27, c'est le mercredi.
Ah bon ? Ouais. C'est le mardi ou le mercredi ? C'est moi qui me suis trompé alors. Mercredi à 14h à l'église Saint-Cornélie pour ceux qui pourront ou qui souhaiteront s'y rendre. Oui, c'est Yann. C'est vrai qu'on a. J'aurais dû aller à l'information plus précise immédiatement. Voilà, je vous propose donc d'entrer maintenant dans le vif du sujet de notre dernier conseil municipal de l'année 2023. Est-ce que Justine accepte d'être secrétaire de séance ? Ça ne demande pas beaucoup de travail, comme tu le sais. Je t'en remercie. Nous allons donc d'abord passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Monsieur Luneau ?
Je vous remercie. Bonsoir. Vous n'avez pas fait l'appel ?
Ah non, j'ai pas fait l'appel, tiens, exact.
Oui, je t'en mets. Il manque quelque chose, il manque du monde, mais il manque l'appel.
Parce qu'on m'avait pas donné l'appel, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai sauté.
Et est-ce que je. C'était au sujet de l'approbation du compte-rendu ? Vous voulez faire l'appel ?
Non, bah, je vais faire l'appel. Non, il faut faire l'appel d'abord. Sinon. Alors, je fais l'appel. Monsieur Luneau, présent ?
Oui.
Monsieur Tom Laborde. Monsieur Yann Guimard. Madame Janine Le Golvan. Monsieur Benjamin Leroux va arriver en retard. Il a donné un pouvoir à monsieur Jean-Paul Kergosien. Madame Justine Vienne. Monsieur Philippe Le Guénec. Madame Morgane Petit a donné un pouvoir à madame Nadine Rouet. Madame Katia Sculot. Madame Nadine Rouet. Madame Nicole Le Gagneux. Monsieur Christophe Rochard sera en retard. Il arrive de Paris et il a donné un pouvoir en attendant à monsieur Loïc Oudois. Madame Juliette Cordet. Monsieur Jean-Luc Servet. Monsieur Olivier Buquin a donné un pouvoir à monsieur Olivier Lepic. Monsieur Jean-Paul Kergosien. Madame Christine Desjardins. Monsieur Charles Biétry. Madame Christine Lamandé a donné un pouvoir à madame Marie-Pierre Gasser. Monsieur Gérard Marcalbert a donné un pouvoir à monsieur Michel Durand. Madame Catherine Isoard. Monsieur Michel Durand. Madame Marie-Pierre Gasser, décidément, ce soir. Présente. Monsieur Loïc Oudois.
Présent.
Madame Sylvie Robineau. Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Et Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Monsieur Luneau, je vous rends la parole.
Je vous remercie. Au sujet de l'approbation du procès verbal, je vois un changement. Les conseillers municipaux sont invités à envoyer leurs éventuelles remarques en amont. Mmh. Dans combien de jours avant le conseil minimum ?
Disons que pour que les services puissent travailler, de 3 jours, comme les questions diverses et orales,
d'accord,
sera parfait.
Plutôt 2 ou plutôt 3 ?
Pour aller 3.
3. Merci.
Enfin, si c'est 2, on fera la modification,
d'accord,
quand même.
Et pour dire quand les choses vont bien, les comptes rendus s'améliorent, il y a des échanges mieux retranscrits. Alors, le logiciel coquin a quand même encore écorché le nom de votre collaboratrice de cabinet, mais ça va quand même beaucoup mieux et je vous en remercie.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte rendu ? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au compte rendu des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Monsieur Guimard.
La 158, c'est les travaux pour remplacer les plots, j'imagine.
Alors, c'est pas les travaux. Oui, enfin, c'est le projet de la mise à sens unique. C'est l'étude de la maîtrise d'œuvre. Oui.
Là, c'est que l'étude.
C'est l'étude de, c'est-à-dire c'est comme c'est l'architecture, le dessin du projet avant travaux. Ouais.
Alors voilà, est-ce que il aurait été intéressant ou il est intéressant qu'on ait aussi nous un visuel de cela ?
Ah ça n'a pas encore commencé, ça commence là.
D'accord.
On a une première réunion, mais vous aurez un visuel évidemment. Madame Le Doualvent ?
La 2023-160, donc location d'un logement communal, donc là il y a 2 personnes. Déjà, j'aimerais connaître les critères d'attribution. Donc à savoir, ça, ce sont des logements plus, enfin, qui étaient considérés d'urgence. Est-ce qu'on les réserve justement aux familles, enfin, des personnes avec enfants ? Parce qu'au foyer logement, on avait mis des critères aussi, et là, des personnes seules pouvaient y être.
Alors, les critères pour les logements de la résidence qui sont attribués pour les gens extérieurs et les critères des 4 logements qu'on a au-dessus de l'école sont les mêmes, identiques. C'est-à-dire, c'est réservé pour les gens qui travaillent sur Carnac et c'est des baux de 6 mois renouvelables une fois. Voilà. Et donc, c'est pas pour des familles, ça dépend parce qu'on a 2 T2 au-dessus de l'école, il y a 2 T2 et 2 T3, donc ça dépend de. Voilà, ça peut être un jeune couple, ça peut être. Voilà, ça dépend de la demande.
Donc ça peut être un an maximum.
Ouais.
D'accord.
T3, oui, parce que oui, ça peut être une famille avec 2 enfants ou une maman avec 2 enfants, mais c'est. Voilà.
Et donc c'est réservé aux personnes qui travaillent
Qui travaillent essentiellement sur Carnac. C'est pas très mal.
L'un des 2 au moins, quoi.
Oui, bah oui, on est 2.
Autre question ?
Merci.
Tom ? Monsieur Laborde, pardon.
La 156 et la 159, j'imagine qu'elles sont liées. Donc ce sont des bornes sur le parking de la mairie pour vos véhicules électriques. Est-ce que c'est pour le personnel ou les équipements tels qu'il peut y avoir au CTM ?
Monsieur Durand va vous répondre.
Oui, alors c'est uniquement pour les voitures du personnel. Pas le personnel. De technique de CTM.
véhicules de la mairie qui ont été changés, entre autres minibus, où on a pris un minibus électrique et donc il fallait se retrouver, on renouvelle les véhicules et à chaque fois on essaye de renouveler en électrique et donc d'avoir des bornes de recharge. Je prends l'exemple du minibus.
Et est-ce que vous envisagez pouvoir ouvrir la possibilité de recharge aux employés de la commune? Et si oui, au niveau de la facturation, est-ce que vous mettrez en place une facturation où vous offrirez la recharge comme c'est permis par l'URSSAF?
Ça n'a pas été envisagé dans un premier temps. Effectivement, c'est une bonne question que je ne me suis pas posée, que nous ne nous sommes pas posés. Donc, merci Tom. Pour l'instant, on n'a pas de demande au niveau des employés de la mairie. Si demain, on a une demande, effectivement, on étudiera la question. Si c'est une recharge juste complémentaire pour rentrer, parce qu'on est sur des petits parcours, je pense qu'on la laissera gratuite. Effectivement, si c'est après des recharges rapide. Et voilà. Maintenant, les recharges qu'on a, c'est des recharges à 7 kW, si je ne dis pas de bêtises, Michel. Par contre, il y a aussi une installation qui est prévue au Luciole, vous l'avez vu passer au dernier conseil municipal, au Luciole et à Yartisen, avec des bornes de recharge, je dirais, moyennes et des bornes de recharge semi-rapides.
Oui, merci. Au sujet de la 223-158, la mission de maîtrise d'œuvre portant sur les travaux d'aménagement en sens unique de la route des alignements de Carnac pour 39 660 euros par arboré à paysage. Sauf erreur de ma part, en réunion publique, vous aviez dit que la commune faisait un essai de mise à sens unique de la route des alignements et que les Carnacois, seraient consultés au terme de cet essai avant de prendre une décision.
Non, je n'ai pas dit ça.
Vous n'étiez pas à la réunion publique.
J'ai dit effectivement qu'on faisait un essai de circulation pendant quelques mois pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème et de fluide et qu'ensuite on prendrait une décision à l'issue de cette expérimentation.
D'accord, mais on en reparlera émis lors de la réunion publique D'accord.
Ben on en reparle. Là,
donc l'essai est concluant.
Voilà, l'essai
donc
est concluant.
Vous confirmez le sens unique.
D'autres questions? Alors, je vous propose de passer au premier rapport.
Non, je voudrais juste que
Non, c'est à la fin, ça, non? C'est des questions diverses.
Ah, ok.
J'avais compris que tu voulais faire ça à la fin. Non, mais on fera ça en question diverse. Monsieur Michel Durand, un premier rapport sur la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. Un vaste et complexe dossier qui nous attend dans les années qui viennent.
Oui, en fait, c'est un grand titre. Alors, en fait, il a institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols en lieu et place de la conférence régionale du SCOT. C'est beaucoup plus simple. Et la composition et le nombre des membres de la dite conférence sont déterminés par le Conseil régional, sur avis des organes délibérants, des établissements publics intercommunaux, des conseils municipaux des communes n'ayant pas transféré la compétence en matière de PLU. Et c'est le cas de Carnac qui n'a pas transféré sa compétence en matière de PLU. Donc il y a 41 membres qui vont constituer cette conférence régionale. Vous avez la liste là, j'essaie de la trouver. Ok, il y a un représentant de l'État, il y a un représentant du Conseil régional, un représentant de chacun des 27 établissements publics, un représentant de chacune des 4 associations départementales, 4 représentants de chaque département breton, un représentant de chaque département breton, en l'occurrence 4, un représentant de la délégation régionale, l'Association des intercommunalités de France, un représentant de la commune d'Ouessant et celle de Saint, les deux seules communes compétentes en matière d'urbanisme non membre d'un EPCI et non couverte par un SCOT, et donc considérant que la commune Carnac n'a pas transféré sa compétence en matière de plan local. Voilà. Bon.
Il s'agit effectivement d'une proposition du président de la région à l'ensemble des collectivités territoriales de la Bretagne, qui ont d'ailleurs toutes à l'unanimité accepté cette proposition, de manière à ce que les élus locaux puissent participer directement à l'élaboration du SCOT régional. Et donc un certain nombre de représentants, pas de la commune hein, évidemment, parce que il n'y a que 41 membres, mais en tout cas notre intercommunalité sera représentée dans ces débats qui seront donc présidées par le président de région. Et donc, bah, au sein d'ACTA, l'ensemble des communes étaient là aussi unanimes pour rentrer dans ce dispositif qui, encore une fois, permettra aux collectivités territoriales eh bien, d'être associées à la réalisation de ce SCOT Bretagne. Non, je viens de dire qu'il n'y a pas de représentant de Carnac. Parce qu'en fait, il y a 41 membres et ce sera un représentant de l'intercommunalité. Monsieur Luneau ?
Merci. Je me suis abstenu en commission urbanisme sur ce point, car je trouve dommage qu'une instance se crée au niveau régional sur un sujet aussi important et crucial que le ZAN, et que ce soit constitué que d'élus. Il n'y a pas du tout de référent, d'association, de représentant de Jean Coudin. Et là, on nous décrit un grand conseil avec que des élus qui, des fois, se disent peut-être pas assez les choses simplement. Et c'est marrant, vous évoquiez Francis Thomas, qui était membre du Conseil économique et social, qui a même changé de nom, qui s'appelle maintenant le Conseil économique, social et environnemental. Et je trouve très important que ce genre d'instance, là, celle qui se crée... et en son sein ou vraiment à côté des organes constitués de personnalités qualifiées issues de la société civile qu'on va écouter. Donc je m'abstiens de voter pour ce point.
Parfait. D'autres remarques ? Madame Le Golvan ?
On parle de zéro artificialisation.
Pardon. Donc, quand on nous parle de zéro artificialisation donc, pour 2050, on voit qu'il y a la modification du SCOT qui est en train de se préparer au niveau du pays doré, ou en tout cas, c'est. Voilà. Je pense que les grandes lignes sont déjà dessinées dans ce SCOT.
Ça évolue encore beaucoup parce que justement, c'est une des questions, la répartition des enveloppes foncières qui va être donc décidée au niveau de la région Bretagne, puis décliné dans toutes les intercommunalités, c'est encore... vous avez dû suivre l'actualité législative. Il y a un certain nombre de fonciers qui vont être retirés de ces attributions, notamment les projets d'intérêt national ou même régional. Donc les travaux sont avancés, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à déterminer, particulièrement parce que le tissu législatif n'est pas encore tout à fait arrêté et notamment les décrets d'application de cette loi ZAN.
Donc en effet, ça concerne... en tout cas, quand je lisais tout le rapport pour la conférence, ça concerne surtout les grands projets. Enfin bref, ils vont...
Pas vraiment. Enfin si, ça concerne les grands projets. Mais après, on va, pour être très simple, on va dire, ACTA, vous avez une capacité d'artificialisation de 32 hectares. Et après, il va falloir les répartir au sein d'ACTA entre les communes. Et donc, en fait, il y a tout un travail par cascade entre la région... les départements, les intercommunalités pour distribuer ces capacités d'artificialisation qui resteront à la main des communes. Donc en fait, il faut descendre l'escalier territorial et des collectivités et ça ne se peut se faire évidemment qu'au départ à la région.
Ça veut dire que notre PLU qui aujourd'hui a dessiné tout ce qui était, je dirais, constructible ou artificialisable, on va dire... on pourrait être amené à le réviser, mais pour augmenter finalement l'artificialisation.
Alors c'est même pire que ça, Madame Le Golvan. C'est-à-dire que ce qui pourra arriver, et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la loi Littoral, on pourrait très bien, au moment où la loi ZAN va entrer en vigueur, avoir des terrains qui sont constructibles au PLU et qu'ils ne le sont pas légalement. Vous avez une commune, je vous donne un exemple. Vous avez une commune, on dit, Carnac, vous avez une capacité de 8500 mètres carrés artificialisables. Vous avez un PLU. Les premières personnes vont artificialiser, vont construire au fil des dépôts. Une fois qu'on arrive à 8500, ça s'arrête.
Oui.
Donc faut attendre une révision de la loi ZAN ou des enveloppes supplémentaires. Donc oui, je pense que la plupart de nos concitoyens n'ont pas réalisé ce qui va arriver.
Je pense qu'on le réalise. Par contre, justement, par rapport... Pardon ?
Il faut acheter.
Oui. Il faut construire, si on peut, quoi.
Justement...
C'est un peu l'effet pervers, d'ailleurs, de ces lois, parce qu'en fait, les gens qui sont au fait de la législation, ce qui n'est pas le cas de tous nos citoyens, ils s'empressent un petit peu comme ce qui s'était passé au moment de la loi Allure. Ils s'empressent de déposer des permis, ce qui accélère l'artificialisation. Parce qu'évidemment, quand on est propriétaire d'un terrain constructible, on se dit je ne vais pas attendre que la loi ZAN entre en vigueur et puis de me retrouver avec un terrain constructible qui, de fait, ne l'est plus. Donc, on va arriver là. Vous avez tout à fait raison.
Justement, ça me faisait poser la question suivante. Comme notre PLU est toujours en vigueur, le nôtre, on savait à l'époque combien d'hectares, là je regarde M. Durand, combien d'hectares constructibles on avait et, quand on a démarré le PLU. J'aimerais, si c'est possible, en tout cas, je ne vous demande pas ça ce soir, sinon je vous l'aurais... Je peux attendre le prochain conseil, en tout cas. Savoir combien aujourd'hui, puisqu'on est capable de mesurer, combien d'hectares constructibles il nous reste.
On peut facilement vous obtenir ça. Hein. On en a perdu 80 entre notre poste et notre PLU, hein, au fil de la loi ZAN et l'ALUR. Et maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est combien on a fait depuis l'entrée en vigueur du PLU ?
Tout à fait, oui. Okay. C'est-à-dire combien d'hectares on avait. De combien on est parti et combien il reste pour démarrer 2024.
D'accord. OK. Oui, je suis incapable de vous répondre là.
Hein. Ah bon.
Michel, si tu avais été capable de répondre là...
C'est en lisant le bordereau et puis en...
Si tu avais été capable de répondre là, Michel, tu avais l'Ordre national du mérite la semaine prochaine.
Mais ça aurait pu.
Oui.
Ça aurait pu.
Ouais.
Voilà. Donc oui, ce serait très bien parce que ça nous permettra de voir pour combien d'années on peut construire encore.
On le saura même pas en fait, parce qu'on le saura que quand on aura une fois que la loi ZAN nous aura attribué le nombre de mètres carrés encore artificialisables. Parce qu'en fait, le chiffre qui nous reste, c'est dans la législation actuelle. Mais si on nous dit, finalement, il vous reste, il vous reste 10 hectares, mais la possibilité attribuée à Carnac, c'est 2 hectares. Dans la réalité, ce sera donc 2 hectares.
Tout à fait.
Même si on a 10 au PLU.
Mais par contre, comme le temps que, enfin, jusqu'en 2050, on a un peu de temps, même si ça va se mettre en place, c'est bien quand même d'avoir avec ce que l'on sait aujourd'hui.
Mais ça va se mettre en place beaucoup plus vite que ça. Hein. Enfin, c'est une histoire de 2-3 ans minimum.
Pardon.
Monsieur Luneau,
avez-vous une idée de savoir si les parcelles qui seraient encore constructibles à terme seraient fléchées ?
Mais pour l'instant, on attend les décrets d'application, mais non, je pense que ce sera sur une logique de premier déposé, premier servi, malheureusement. Parce que, on va mettre les élus dans des situations très très compliquées. Hein. Parce que, évidemment, tout le monde ne suit pas l'actualité du droit de l'urbanisme, et donc il y a des gens légitimement à Carnac qui ne s'intéressent pas à ça, qui vont un jour venir en mairie en disant « voilà, monsieur le maire, je dépose mon permis de construire sur le terrain de mon grand-père, de ma grand-mère, qui est constructible, et on va lui signifier qu'il n'y a plus de capacité de construction et que donc il ne pourra pas le faire ». C'est vrai que quand on ne suit pas l'actualité du droit de l'urbanisme, quand on ne sait pas ce que c'est que la loi ZAN, je pense qu'il va y avoir des... Au même titre qu'on a eu des situations dramatiques quand on a eu l'interprétation... par le tribunal administratif de la notion de village au titre de la loi littorale. Hein. On s'est retrouvé dans des situations absolument incroyables où moi je me suis retrouvé face à un jeune couple, je m'en souviendrai toujours, hein, qui avait acheté un terrain 300 000 euros à Carnac, qui s'était endetté pour le faire. Le terrain était constructible au plan l'occupation des sols et donc le permis a été délivré, ça part en contrôle de légalité et ça revient non constructible. On a mis des gens dans des situations absolument dramatiques. Et quand c'est des jeunes qui... Parce que le prêt, ils vont être obligés de le rembourser sur un terrain qu'ils ont acheté 300 000, qu'ils avaient acheté 300 000 et qui valait zéro. Donc l'urbanisme, c'est... Voilà, moi, j'incite le message au public et à tout le monde et à la presse, c'est qu'il faut vraiment que les particuliers suivent l'évolution du droit de l'urbanisme pour ne pas se retrouver parfois dans des situations dramatiques que nous, on doit gérer derrière. Hein, et on n'est pas la seule commune à avoir géré des choses absolument... qui brisait le cœur.
Je m'excuse, mais moi, j'ai pas compris la question comme vous l'avez comprise. Moi, j'ai compris que M. Luneau demandait si on avait justement des terrains supplémentaires via le zéro, ou l'artificialisation complémentaire, si ces terrains-là auraient été fléchés pour du logement résident principal. J'ai compris ça, moi.
La question, c'était sur ce qui resterait. En fait, on ne sait pas s'il y aura plus, il y aura moins. On pourrait imaginer
qu'il y aura moins. Il y aura beaucoup moins. Il n'y aura pas plus, ça, c'est sûr.
Et la question suivante, c'est... on parle de zéro artificialisation nette des sols. La solution sera de construire en hauteur. Avez-vous déjà une idée sur la question de savoir si Carnac libérerait les hauteurs de construction des immeubles
Pour l'instant, j'attends. Enfin, je veux dire, on attend d'en savoir plus sur les décrets d'application, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu encore la bouteille à l'encre, cette histoire. Donc, et c'est bien pour ça que toutes ces commissions et ces conférences régionales se créent. Encore une fois, moi, à titre personnel, libérer les hauteurs, j'y suis pas très favorable dans un urbanisme qui est celui de notre commune. Après, force est de constater que c'est l'esprit de la loi. C'est là, en fait, depuis un certain nombre d'années, depuis la loi Littoral, depuis la loi Élan, depuis la loi Allure, l'État, dans une logique qui n'est pas stupide d'ailleurs, hein, la philosophie consiste à dire n'étendons plus l'urbanisme en extension d'urbanisme, mais densifions là où c'est déjà construit. Et donc, qui dit densification dit partialisation, comme on le voit, hein, pendant très très longtemps à Carnac-Plage. On avait la main sur la surface d'une parcelle qu'il était possible de lotir, et donc on pouvait mettre des surfaces minimales. Aujourd'hui, la loi Allure a supprimé cette disposition. Donc aujourd'hui, vous le voyez dans Carnac, certaines personnes ont des grands jardins avec des villas. Ils ont la possibilité de segmenter, hein, sans que la commune puisse faire quoi que ce soit. Et par ailleurs, effectivement, l'autre composante de cette logique, évidemment, bah, c'est de se dire, puisque c'est déjà dense, construisons en hauteur. Sauf, est-ce que ça s'adapte bien ? On le voit déjà dans les OAP, on se bat avec les promoteurs pour les faire revenir dans des densités basses, dans des hauteurs le plus basses possible, parce que la loi leur a ouvert la possibilité de faire plus haut et plus dense. Si en plus la loi nous libère la hauteur, bah, je pense qu'on aura des belles cicatrices dans le paysage. Donc moi, à titre personnel, j'y suis pas favorable. Encore une fois, quand on est dans le cadre d'une loi nationale, bah, les élus sont chargés d'appliquer la loi, même si elle leur plaît pas. Les OAP, moi, c'est pas un truc qui me plaît. J'aurais préféré que ça n'existe pas. Mais quand ça existe, encore une fois, hein, il faut une raison légale et une base légale pour refuser un permis. Et quand une loi nationale autorise à faire un certain nombre de choses, bah, vous pouvez pas l'empêcher. Vous pouvez parfois négocier, mais c'est compliqué. Donc un peu trop tôt pour se poser ces bonnes questions. Mais dès qu'on aura les décrets d'application et dès qu'on saura comment cette loi ZAN va fonctionner, parce que quand on entre dans le détail, moi, je vois pas comment on va pouvoir faire. Hein. Ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué de le gérer au niveau communal, mais aussi de le gérer au niveau intercommunal, parce que l'une des conséquences de cette conférence, c'est que ACTA va se voir attribuer un certain nombre d'hectares de constructibilité qui va ensuite falloir répartir entre les communes. Imaginez la foire d'Empoigne, parce que tout le monde va vouloir évidemment sa part. Donc moi, j'aimerais pas être le président d'ACTA quand on va entrer dans ce genre de débat. C'est pas simple. C'est un peu une loi cathédrale. Alors elle est encore une fois, on peut en comprendre la philosophie, on peut même la supporter. On peut plus urbaniser comme on l'a fait dans les années 50. On peut plus grignoter du foncier. On peut plus miter nos campagnes comme on l'a fait massivement dans les années 50, 60, 70. Évidemment, il faut construire et densifier là où c'est déjà construit, parce que de toute façon, vous le savez, enfin, sur les communes littorales, mais partout en France, on est face à une catastrophe en matière de logement. Hein. Malheureusement, c'est pas que la côte. Hein. Ces lois, elles sont un peu schizophréniques, c'est-à-dire que, on limite la capacité de constructibilité, mais en même temps, il faut qu'on loge les gens, il faut qu'on loge nos jeunes, il faut qu'on... Et donc, c'est à la fois une dimension environnementale qu'on soutient tous, mais en même temps, ça nous met dans des situations très, très compliquées, parce que la situation, elle est déjà très, très compliquée.
Je reviens juste sur ce que vous avez dit par rapport aux OAP. Les OAP ne pouvaient ne pas être destinés seulement à la construction. Ça aurait pu tout à fait être choisi ou être fléché pour être un parc ou autre. Ça, vous n'étiez pas obligé de construire. Et
non, voilà. À partir du moment où on a 20% de logements sociaux dans toutes les OAP, ça permet aussi de limiter un peu la question du logement. De toute façon, c'est comme Bélane et Bellevue. Hein, il faut construire des logements. On en a besoin.
Alors justement, c'est vrai que par rapport au logement dont vous parlez, toutes les OAP, on voit qu'elles sont bien avancées, voire très très bien avancées, terminées même pour beaucoup. Celle du Runel, on en est où ?
Il y a eu un petit problème sur l'appel d'offres. La société qui avait été désignée a déposé le bilan. Donc ils ont relancé un appel d'offres et les travaux devraient commencer en mars.
D'accord. Je précise pour le public, peut-être qu'il ne sait pas, mais le Runel, c'est l'OAP qui est destiné et fléché à faire du logement, donc pour les résidents principaux et social, mais enfin résident principal. Quoi. Et c'est la dernière. C'est marrant parce que dans le social, on voit que c'est beaucoup plus lent que dans le privé, visiblement.
Évidemment parce que c'est des opérateurs communaux et enfin communaux, c'est des opérateurs départementaux pour la plupart, et donc effectivement c'est plus compliqué. Mais là vraiment c'est le coup de pas de chance parce que encore une fois la société qui avait été désignée au titre de l'appel d'offres a déposé le bilan, donc il n'y a pas le choix. Monsieur Luneau, il y avait encore une question.
Oui, merci. Au sujet du logement, vous parliez d'aider les jeunes actifs à se loger. Il y en a besoin sur la commune, c'est évident. Pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir demandé aux promoteurs immobiliers des derniers gros programmes qui sont en train de se construire actuellement un quota plus important que 20% de logements sociaux, puisque vous pouvez aller jusqu'à 50%?
Je vais laisser Madame Robineau répondre.
C'est fait, Monsieur Luneau. Hein. Quand on rencontre avec Monsieur Durand les promoteurs, on se bataille pour qu'on ait plus de logements. Bon, après, c'est une question de bon sens des promoteurs. Hein. Mais bon, généralement, ça, ils entendent.
Oui, mais il vous reste que les permis sont signés avec 20% de logements sociaux. Bah, vous pourriez imposer 50%
c'est plus,
ou 40%, juste 40% bon, comme les communes voisines.
Oui, mais là, ça va. Pour l'instant, on est établi sur 20%, mais normalement, on doit augmenter notre pourcentage de logements.
Ça va évoluer.
À combien vous passeriez? Ça dépend. Parce que les autres communes sont
exemplaires
en la matière.
Non.
C'est acta, monsieur.
Oui, c'est acta.
Ah non, c'est
tout le monde est à peu près la même chose. Il y a quelques différentiels en fonction.
Part que la commune demande de logements sociaux dépend.
Non, c'est pareil pour l'instant. Non, monsieur Luneau, pour l'instant, au niveau du PLH, on a tous à peu près le même pourcentage. On s'est réparti.
Le PLH, il n'est pas contraignant. Le PLH, il ne sert à rien.
C'est là-dessus qu'on travaille.
C'est les communes qui décident des quotas de logements sociaux qu'elles veulent dans les programmes privés.
Autre question. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a donc une abstention, c'est ça, Monsieur Luneau? Est-ce qu'il y a des votes contre? Le rapport est adopté. Alors, le rapport suivant, il ne vous aura pas échappé que nous avions désigné Monsieur Lejean comme représentant de la commune de Carnac pour siéger à la société publique locale Acta Énergie. Mais Monsieur Lejean devient tellement indispensable à Acta que Acta l'avait déjà fait. Nous a demandé de le désigner comme administrateur pour le compte d'Acta. Donc, comme il ne peut pas être représentant de la commune et administrateur désigné par Acta, nous sommes obligés de revoter. Et donc, je vous demande de modifier la délibération du 9 novembre 2023 et donc de désigner Monsieur Marc Albert comme délégué au sein de la collectivité, de cette notre collectivité, au sein de l'Assemblée générale, donc de la société publique locale Acta Énergie. J'imagine que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Monsieur Lejean, budget principal de la commune. Le marronnier, l'autorisation budgétaire spéciale que nous votons chaque année à la même période.
Tout à fait. Donc c'est la DBS, hein, comme vous l'avez tous les ans, pour permettre effectivement le démarrage de l'année et pour pouvoir continuer nos investissements. Dans un cadre qui est bien limité, c'est 25%. Vous avez un petit tableau. Donc pour la commune de Carnac, il y a la possibilité de flécher à la hauteur d'1,881,137,48 €. Vous avez au chapitre 20 les différents, chapitre 20, 204, 21 et 23. Vous avez effectivement les différents montants qui peuvent après évoluer effectivement en fonction de ce qu'on a. Les premiers montants, le chapitre 20, c'est les études et logiciels. Le chapitre 204, c'est des parties énergie, excusez-moi, tout ce qui est dépenses. C'est le chapitre 21, c'est les acquisitions matériel terrain et les travaux derrière pour le chapitre 23.
Bon. Comme chaque année, voilà. Il n'y a pas de questions, pas de vote contre. Pas d'abstention, je vous remercie. La même chose pour le musée, monsieur.
Tout à fait, donc pour le musée, qui est passé en commission finance, la même chose, à part que pour le musée, effectivement, comme on a lancé le programme du nouveau musée, vous avez des montants d'investissement qui étaient un peu plus forts l'année dernière. Or, et on ne prend en compte tout ce qui est les montants d'investissement hors de la PCP, puisque pour le nouveau musée, on a voté une APCP, donc c'est hors la PCP pour la hauteur de, effectivement, 13 726,25 €.
Pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Un autre marronnier, le reversement de la taxe de séjour 2024 à l'Office du tourisme, toujours monsieur Lejean.
Tout à fait, vous savez que l'Office du tourisme est un établissement public industriel et commercial et à partir de là récupère effectivement la taxe de séjour. La taxe de séjour est versée à la commune qui reverse effectivement derrière à l'Office du tourisme. L'Office du tourisme n'ayant pas, comme la SPL, Acta Tourisme, un capital n'a pas de fonds de roulement, donc il a été prévu dès le départ de verser une somme tous les trimestres pour avoir de la trésorerie de l'Office du Tourisme pour pouvoir engager ses dépenses. Elles étaient basées sur 510 000 € versés par trimestre. Or, à chaque fois que vous voyez qu'il y a une décision modificative au niveau de budget de la commune, vous voyez systématiquement une ligne apparaître au niveau de l'office de tourisme de la taxe de séjour, hein, puisque bien sûr on est au-dessus de ce montant-là. Donc on a tout simplement demandé de le réactualiser, de passer de 510 000 à 600 000. Pour information, la taxe de séjour sur 2023, c'est à peu près 968 000 euros.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ?
J'ai anticipé.
Bravo, monsieur Lejean.
J'ai droit à la médaille. J'ai droit à la médaille. J'ai droit à la médaille.
Non, tu n'as pas pour avoir deviné la question, mais en revanche, pour avoir fait passer la taxe de.
Alors, il s'agit effectivement du marché public concernant les assurances de la ville, mais simplement l'avenant du lot numéro 6, et le lot numéro 6 concernant les remboursements pour les arrêts maladie du personnel communal qui est signé avec Allianz. Ce sont des contrats sur 3 ans. Mais la société Allianz nous a demandé un avenant dans la mesure où il y avait eu pas mal d'arrêts de travail et donc ils nous avaient remboursé, pris en charge pas mal de salariés. Donc ils nous ont demandé une augmentation pour la dernière année de 1,03% d'augmentation concernant les agents qui cotisent à la CNRACL. Donc on passe de 5,15 à 6,18. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 6 pour les risques statutaires du marché public des assurances de la ville.
J'avais demandé en commission certains chiffres. Je ne sais pas si vous les avez, Mme Gassard.
Oui, je les ai. Alors, sur 2023, on a eu 2 congés maternité, une maladie professionnelle et 3 accidents de service. Mais bien entendu, ils ne se sont pas basés juste sur les arrêts 2023. Hein. Donc je vous ai pris 2022 et 2021. 2022, 2 maladies, 2 congés maternité et 2 longues maladies, qui sont les mêmes que les gens qui sont à l'arrêt encore maintenant. Et 2021, pareil, 2 congés longues maladies et 3 maladies ordinaires. Voilà. Ça concerne grosso modo par an entre 5 et 6 salariés. Et pour certains, c'est les mêmes salariés quand c'est de la longue maladie. Voilà. Et les congés maternité, voilà.
J'avais appelé ce document le bilan social. Donc, justement, est-ce que vous avez le dernier bilan social qu'on puisse en avoir au moins la lecture ? Et d'autre part, c'est vrai que, bon, là, vous les citez en général, je l'avais demandé, en fait, le nombre de jours que ça représentait au total.
Alors, le nombre de jours calendaires d'arrêt, en 2023, c'est 2012. En 2022, 2014... 2214, pardon, et en 2021, 1435, nombre de jours d'arrêt.
Donc on voit l'évolution. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On passe à un certain nombre de rapports scolaires. Monsieur Oudouin, les crédits scolaires 2024, encore des marronniers.
Comme chaque année, effectivement, on est amené à délibérer sur ces montants-là. Donc, je commence par les crédits scolaires 2024 pour les classes maternelles, donc qui sont à hauteur de 56 euros par élève pour les 2 écoles.
Pas de vote contre, pas d'abstention, à unanimité. Rapport numéro 11, monsieur Oudouin.
Alors là, je vous demande d'excuser la petite coquille qui s'est glissée, hein, une erreur de copier-coller habituelle. Il est mentionné. Donc,
est-ce que Tom l'avait repéré ?
Non, pas au fait. voilà, donc le titre, c'est bien classe élémentaire. Dans le corps de texte, on parle des classes maternelles, mais il s'agit bien évidemment des classes élémentaires tout le long. Le montant, par contre, est bien le bon. Il s'agit bien de 75 euros par élève.
—
Pas d'abstention, pas de vote contre, unanimité, je vous remercie. Le rapport 12, participation 2024 aux activités pédagogiques des écoles de Carnac, monsieur Oudouin.
Oui, donc là, une évolution. On était à 1 500 euros les années précédentes. On vous propose de passer à 1 600 euros. Et on était à 2 000 euros les années précédentes. On vous propose de passer à 2 200 euros. Tout ça pour tenir compte de l'évolution notamment des coûts du carburant qui impactent les activités pédagogiques scolaires.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13, participation au transport pour des activités aquatiques.
Donc là, effectivement, il s'agit d'une prise en charge en fait financière pour permettre aux élèves des deux écoles de pouvoir se rendre à la piscine Alréo pour 12 séances maximum de natation. Et donc les séances en elles-mêmes sont prises en charge par ACTA et en fait la commune prend en charge les frais de transport.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Cette fois-ci les activités nautiques, cette fois-ci c'est à Carnac.
Oui, tout à fait. Cette fois-ci, c'est à Carnac, c'est au Yacht Club, et donc c'est une participation financière. Donc là, on parle des écoles. Donc on a une, on a pris l'habitude là, depuis plusieurs années d'augmenter en fait la tarification d'un euro chaque année pour progressivement rattraper le coût supporté par le Yacht Club. Donc là, la proposition, elle est à 21 euros la demi-journée par élève, et ce qui nous fait 42 euros la journée par élève, ainsi que la prise en charge des frais de transport.
C'est grâce à ça que, de temps en temps, nous avons des champions.
Tout à fait.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. L'arbre de Noël 2024.
Oui, alors là aussi, petite augmentation. On avait, donc on a pris l'habitude d'offrir, enfin c'est le Père Noël évidemment qui offre des cadeaux aux enfants, et donc en l'occurrence des livres. Ça devenait de plus en plus difficile de trouver des livres de qualité pour 10 euros. Donc on vous propose de passer à 11 euros par enfant pour maintenir une bonne qualité dans les ouvrages proposés.
Les cures, c'est important. Alors, pas de vote contre, pas d'abstention, je vous remercie. Le remise des prix 2024 dans les écoles de Carnac, toujours monsieur Oudouin.
Oui, donc ça c'est un moment que le maire apprécie particulièrement, c'est la remise des prix en fin d'année scolaire pour les enfants de grandes sections qui passent au CP et puis les CM2 qui passent au collège, et donc on leur remet respectivement un dictionnaire et une clé USB pour leur féliciter pour leur parcours scolaire.
Et je les ennuie à chaque fois avec importance et le goût de la lecture. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. On est au rapport numéro 17, c'est ça ?
Oui, donc là, comme tout à l'heure, en fait, c'est les activités nautiques, mais cette fois-ci à destination des collèges. Et donc, on n'a évidemment pas de tarification à la journée, mais uniquement une tarification à la demi-journée, et donc à hauteur de 21 euros, comme évoqué tout à l'heure.
Pas de vote contre, pas d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Participation 2024 aux activités pédagogiques scolaires à vocation citoyenne des collèges de Carnac.
Oui, alors là, les collèges nous sollicitent effectivement pour un certain nombre d'activités, vocation citoyenne, qui peuvent être en lien avec le devoir de mémoire ou avec les premiers secours, la lutte contre le harcèlement. Voilà, il y a un certain nombre d'actions différentes qui sont entreprises dans les collèges et pour lesquelles ils peuvent bénéficier de cette aide financière de la commune à hauteur de 2000 euros par collège.
J'imagine qu'ils les demandent.
Oui, 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 bien sûr.
Bon, pas de vote. Ah, monsieur Luneau.
Je vous remercie. Vous parliez, monsieur Oudouin, de commémoration. Il n'y a pas beaucoup de scolaires aux commémorations. La commune fait un grand signe aux écoles pour. Parce que c'est.
Alors, c'est pas obliger les c'est pas la commune qui organise les manifestations. Ce sont souvent les associations d'anciens combattants. Et donc, régulièrement, effectivement, monsieur Lerouzic sollicite les écoles. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire déplacer les écoles, mais pour les grands événements, on a souvent des manifestations auxquelles les enfants sont présentes. Je crois que ce sera le cas d'ailleurs pour l'année prochaine, parce qu'il y aura l'anniversaire du débarquement. Donc il y a un certain nombre de manifestations l'année prochaine où il y aura des enfants et des écoles de Carnac.
C'est une bonne nouvelle.
En général, la mobilisation est plus importante au mois de mai qu'au mois de novembre. Rose.
Alors, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 19 sur l'aide 2024 aux familles carnacoises pour les séjours scolaires et extrascolaires.
Oui, donc c'est une aide qui est versée aux familles carnacoises pour un séjour comprenant au moins une nuitée, organisé donc un établissement scolaire carnacois, que ce soit une école ou un collège, et également une association carnacoise. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, c'est attribué en fonction du quotient familial, avec une revalorisation cette année à hauteur de 2,5%.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Participation 2024 au repas des élèves carnacois de l'école primaire.
Donc là également, on a revalorisé à hauteur de 2,5% le montant qu'on verse aux familles carnacoises pour les repas qui sont pris donc dans les restaurants scolaires carnacois. Et donc on arrive à la somme de 96 centimes par repas consommé.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, on passe au rapport 21, 22, 23 qui porte sur des sessions de la commune.
Pardonnez-moi, c'est allé un tout petit peu vite, pardonnez-moi. Sur la participation de la commune au repas dans les cantines scolaires, je vois 0,96. De combien était le montant avant ?
C'est à 94 de mémoire.
D'accord, donc les 2 centimes ont été validés. Parce qu'il y a 2 centimes qu'on fait débat en commission finance et. Et je vous félicite d'avoir. Merci Pascal. Ah oui, non mais avec Pascal, on s'est écharpé là-dessus et enfin, et je trouvais dur de pas vouloir augmenter le montant. Donc merci.
Comme quoi tout arrive, hein, voyez.
Alors, Monsieur Durand.
Il faut dire quand c'est bien. Alors.
Monsieur Durand.
Là, c'est bien.
Monsieur Durand.
C'est bon. Bon, c'est un délaissé de voirie dans la rue de Courdiec. En fait, quand ces gens avaient dû acheter leur terrain, c'est Madame Bellingham, vous voyez sur le plan, c'est situé juste à côté de la crèche. C'est un délaissé de voirie qui n'a jamais été régularisé pour accéder à la propriété. Ce qui fait que dans le temps, les gens-là se sont appropriés les 2 terrains qui sont juste devant, côté rue, et qui appartiennent à la commune. Voilà, donc on a décidé... De leur vendre ce terrain de façon à régulariser et surtout de pouvoir entretenir leur branchement. Il y a l'électricité, il y a l'eau et le gaz qui sont côté route et ils sont situés par le terrain qui normalement appartient à la commune. D'accord. Alors il faut savoir quand même que entre la route et le terrain, il y a un dénivelé d'1,50 m à peu près. Et donc c'est des travaux importants si on avait dû les garder, évidemment, alors qu'ils ne nous auraient rien servi du tout, quoi. Il y a 155 mètres carrés à peu près.
Ok. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Luneau ?
Merci. Je vais m'abstenir parce que je trouve dommage à cet endroit précisément qui peut être la potentielle entrée ou sortie d'un potentiel programme de logements sociaux, dit de Parc Bellevue. C'est-à-dire que la commune aurait intérêt à garder ce petit morceau de terrain pour faciliter les entrées, les sorties des automobiles de ce peut-être programme. Alors peut-être programme parce que ça fait 20 ans qu'il est en projet, donc je m'abstiendrai sur cette session.
Bon, c'est techniquement
parfait,
impossible.
Parfait. Oui, non, mais c'est pas grave de répondre. Effectivement, c'est
possible.
Il suffit d'avoir une petite idée d'aménagement pour voir que ça ne peut pas servir à ça. C'est pas grave, mais non, mais on a pris votre remarque.
On ne doit pas raconter le contraire de ce qui est. Cette parcelle, elle est à un endroit très précis. Elle peut permettre de faire des meilleurs accès à un programme qui se fera sans doute pas jamais, mais on aurait intérêt à la garder. Et techniquement impossible, c'est pas valable.
On n'a pas la largeur, Pierre-Léon. On n'a pas la largeur. Non. Et il y a la dénivelée en plus. Ben oui.
Bon, il y a des débats qui ne sont pas très utiles, Michel, donc je propose de le clore. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Une abstention donc de Monsieur Luneau. Et pour le reste, unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, déclassement du domaine public, tout à fait, cette fois-ci, pour un chemin qui n'existe pas.
Là, ça concerne le chemin communal de Kerbois. Là aussi, on en a largement discuté en commission d'urbanisme. Pour l'histoire, quand même, c'est un chemin qui est inscrit au cadastre, mais qui n'existe pas dans la réalité. Et en fait, donc, ils n'en ont jamais tenu compte, les gens, sachant qu'il n'y en avait pas l'utilité, du fait qu'ils étaient propriétaires de toutes les parcelles. Tu m'arrêtes, Jean-Paul, si je me trompe, c'est ça? Et donc, il y a eu effectivement une construction de fait dessus. Pourquoi? Parce que le chemin, ben, il ne servait pas. Il n'était même pas tracé. Il n'existe pas. Il est virtuel, enfin, sur les plans. Ça, je sais que Pierre Léon t'en a largement à redire. On en a parlé, je ne sais pas combien de fois en commission. Voilà. Donc, on propose de leur céder cette parcelle, c'est-à-dire de la déclasser.
D'abord de la déclasser.
La déclasser.
La déclasser et ensuite de la céder au titre du rapport 23, donc pour un prix que vous découvrez. Est-ce qu'il y a des questions?
Je veux juste...
Oh, pardon.
Oui, pardon.
Jean-Paul.
Oui.
Jean-Paul.
Je veux juste dire que c'est important puisque ça permet, c'est la condition pour la reprise d'une exploitation agricole qui va être conservée sur Carnac et ça me semble très important puisque c'est une exploitation qui est tout à fait actuelle, viable et elle est à Carnac.
Alors, effectivement, c'est un couple de jeunes là qui sont présentés, qui veulent acheter toute l'affaire, tout le foncier, donc des propriétaires. Hein, c'est ça? Oui,
c'est ça. Je les ai rencontrés d'ailleurs. Oui. Deux jeunes avec une énergie impressionnante. Et donc il s'agit, enfin voilà, je pense que vous connaissez tous les agriculteurs carnacois qui opéraient cette exploitation depuis longtemps. Hein. Ce sont des grandes figures de l'agriculture à Carnac. Madame Le Golvan?
Oui, oui, évidemment, on connaît bien Monsieur et Madame Arsquette. Juste une question du coup, parce que le fait que vous disiez que c'était virtuel, ça, j'y avais pas pensé la dernière fois, parce que ça nous a déjà été présenté en fait en conseil.
Oui, tout à fait.
Et pourquoi on le repasse alors déjà d'une part?
Parce qu'il a fallu déclasser. Il faut déclasser la parcelle.
Et la dernière fois, en fait,
on l'avait pas faite.
On était en train de vendre et on n'avait pas déclassé.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Juste un détail, la construction s'est faite en quelle année sur ce chemin virtuel là, comme vous dites?
Je l'ai connu, je dirais, il y a à peu près entre 15 et 20 ans.
D'accord.
Ouais, facile. Oui.
Et à l'époque...
15-20 ans, c'était Madeleine qui était adjointe, donc ça correspond à peu près à ça, non? Okay. 15-20 ans, oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
Mais justement, puisque... j'ai fait partie de la commission d'urbanisme et quand il y avait des chemins comme ça, ça apparaissait sur quand on nous présentait les dossiers. Donc à l'époque, c'était plus souple, on pouvait... Je sais pas.
Je pense que l'une des raisons qui a dû présider à cette décision, je pense, c'est parce qu'en fait, il y avait comme souvent, parce que le cadastre n'est pas forcément extrêmement précis ou même juste, hein, d'ailleurs, il n'a pas une valeur certaine, hein, le cadastre. Je pense que là, on était dans une inscription cadastrale, mais qui n'avait pas de réalité sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemin. Je pense que c'est pour ça que...
Je pense que, en fait, il devait y avoir une autre exploitation.
Ouais.
Ça devait servir un autre exploitant qui, aujourd'hui, ben, n'est plus là. Et donc, en fait, ce chemin-là n'a plus d'intérêt puisque les parcelles sont desservies, puisque c'est au même propriétaire.
Il avait disparu, quoi, en fait.
Voilà, absolument.
Ben, je pense, hein. Je vois pas d'autre explication.
Merci. Je vais m'abstenir parce que je ne crois pas à la thèse du cadastre qui n'est pas valable, qui n'a jamais eu de chemin, que le bâtiment a été construit sur un chemin communal puisqu'il était au cadastre. Et je trouve très dur, parce que c'est pas la seule situation sur la commune où des morceaux du bien commun deviennent privés au fil des années. Donc, c'est pas. Pardon, je suis en train de parler, tu viens de me couper la parole et tu es censé demander la parole au maire. Donc, le chantage à ils reprendront pas l'exploitation agricole, j'en suis désolé parce que c'est pas le sujet. C'est que le chemin sur le cadastre il existe, ils pourraient faire le tour du bâtiment. Il y a une politique de l'ACTA et de la commune de Carnac à retracer tous les chemins possibles et à en inventer dès qu'ils n'existaient pas. Et au moment où on en a, on les cède. Donc il aurait été prudent de faire une petite mesure, de détourner ce chemin tout naturellement, et que la commune ne se dépossède pas d'une servitude, d'un droit de passage qu'elle a ici de fait. Et je ne trouve pas ça très raisonnable, mais je ne suis pas surpris néanmoins par la décision.
Merci, Monsieur Luneau. Écoutez, je vous propose de passer au vote. Alors, je propose de voter sur les deux rapports, puisqu'ils portent donc un sur le déclassement et deux sur la cession. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe à la... classement des réseaux en l'absence de Monsieur Marc Albert. C'est donc Monsieur Durand qui s'y colle.
C'est une convention Morbihan Énergie. C'est l'effacement des réseaux sur la rue du Tumulus. Voilà, on la voit assez loin. Hein. Voilà, donc il y a l'électricité par Enedis, télécom et éclairage par Morbihan Énergie. Pour un total de 229 468.
Bon, j'imagine c'est le genre de rapport qui donne en général lieu à une unanimité enthousiaste. C'est le cas, je vous remercie. Rapport numéro 25, toujours une convention avec Morbihan Énergie et toujours Monsieur Durand.
Alors c'est toujours au même emplacement, c'est sur la rue du Tumulus, c'est le remplacement des luminaires et il y en a quatre. Voilà, une somme de 13 752.
Pas de vote contre, je vous remercie, unanimité. Convention à maire de servitude pour le passage d'une infrastructure support aérienne dans le domaine privé communal.
Alors, il s'agit du domaine privé communal de Kervilor. Vous voyez où c'est au bout, juste à l'entrée de la propriété Cousin. Le grand parking, en fait. Vous voyez, voilà. C'est pour l'implantation d'un poteau pour la fibre.
Oui, je vais faire mon con, mais je croyais que la fibre, c'était dans le sol.
Mais moi aussi. Avant qu'il l'installe, je pensais que la fibre, c'était dans le sol. Mais non, en Bretagne, on fait aussi des poteaux.
Non.
Ce qui n'est pas très intelligent, parce que comme on a souvent des grosses tempêtes, je pense qu'on aura aussi des problèmes de fibre.
C'est marrant que tu n'aies pas vu, Yann, parce qu'il y en a plein déjà d'installés dans le Carnac. Hein. Il y a plein de poteaux.
Ouais.
Bah si, ils sont différents, les poteaux. C'est des poteaux en...
Il faut voir ça avec Mégalis, mais moi je trouve ça absurde aussi. Mais bon, j'imagine que c'est pour des questions de coûts, mais comme la Bretagne en fait est très très en retard et nous sommes la dernière région à déployer la fibre, le président de région a eu une saine pression à la fois de son opposition mais également de l'opinion publique. Et donc là, ils installent un peu, je dirais, à vitesse grand V pour rattraper le retard. Et comme mettre des poteaux, c'est plus simple que mettre du souterrain, bah, partout en Bretagne, en fait, une partie du réseau est aérien. Mais d'ailleurs, pendant la tempête il y a quelques semaines, pas mal de commentateurs se sont effectivement interrogés de savoir que dans une région comme la nôtre, susceptible d'avoir des coups de vent assez réguliers, c'était très malin de mettre la fibre. Malheureusement, nous ne sommes pas à la manette.
Alors justement, par rapport à la fibre, il y avait tout un
programme
planning,
de déploiement, oui.
Tout à fait, un planning, un programme de déploiement. Où en est-on et qu'est-ce qui restera à faire après? Parce que certains ont, d'autres n'ont pas, enfin bref.
On arrive à la fin, donc il y avait Mégalis 1, 2 et 3, on arrive sur la phase 3 qui devrait être terminée normalement d'ici fin 2026. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ce qu'a expliqué Michel. Prenez le chemin de Beaumère. Tout est aérien dans le chemin de Beaumère et sur les anciens poteaux. Oui. Là, c'est vrai qu'on aurait pu faire sur le privé, peut-être. Mais bon, ça, c'est un autre problème, c'est du privé. Et donc, pour pouvoir rattraper le retard, et on devrait effectivement être équipé à 90% sur notre territoire à partir de fin 2026.
Il y aura juste quelques zones dans lesquelles il y aura de l'ADSL renforcée, notamment du côté du lac, parce que là, il n'y avait pas possibilité, pour des raisons techniques que j'ignore, de déployer la fibre. Monsieur Guimard, non ? Non ? Monsieur Luneau ?
C'était pour être sûr d'avoir compris. Là, on a l'installation de la fibre en aérien qui ne coûte rien à la collectivité. Ah, et après, on va dépenser plein de sous pour tout enfouir parce que... Là, aujourd'hui, on enfouit énormément de lignes aériennes qui ne sont pas la fibre. Enfin, on enfouit tout sauf la fibre. Là, on met de la fibre
aérienne. On enfouit aussi. Quand on fait des travaux, en général, dans une rue, la commune, effectivement, enfouit tout. Sauf que là, ce n'est pas des travaux qui sont menés par la commune. Donc, on n'a pas la main techniquement. Ouais. Et peut-être qu'un jour, on les enfouira. Donc oui, c'est un petit côté absurde. Mais bon, les gens attendent le haut débit avec tellement d'impatience que c'est difficile.
Parce que là, c'est bien des zones où le reste est en aérien. Le reste des réseaux est en aérien, où il y a déjà des...
Là, vous le voyez, c'est en aérien, puisqu'il y a juste un poteau sur la photo.
Ouais. Dans les enfouissements de réseau, quand même, Pierre Léon, il ne faut pas oublier, quand on a une aide de Mégalis, ce n'est pas la commune qui paye 100%. Hein. Effectivement, l'aide n'est pas la même sur l'enfouissement de réseau et par rapport aux luminaires, puisque ce que vous avez vu, si Michel a présenté deux choses, c'est que les luminaires, on a un reste à charge un peu plus important pour la commune, mais on a une aide de Morbihan Énergie. On est d'accord. Donc là, c'est nous qui payons et on a une aide qui nous rembourse. Dans le cas des enfouissements des réseaux, c'est Morbihan Énergie et il y a une participation de la commune.
Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Le rapport numéro 27, en l'absence de Madame Lamandé, je crois que c'est Madame Gasser qui nous parle des tarifs, des créations de tarifs pour la salle du Moustoir et de Clou-Carnac.
Oui, Madame Lamandé a désiré créer des tarifs pour les locations de salles pour les gens extérieurs de la commune par demi-journée et non pas par jour entier. Et ça concernait entre autres la salle du Moustoir et la salle de Clou-Carnac. Elles sont dimensionnées différemment. Donc nous avons deux tarifs. La salle Clou-Carnac, tarif demi-journée à 90 euros. Et la salle du Moustoir, tarif demi-journée à 65 euros.
Monsieur Guimard.
Merci. Donc, question au premier adjoint. Donc, c'est accepter le débat qui a eu lieu en commission finances, qui a été un débat important. Et j'avais promis à Chris Lamandé, responsable des associations, que je soutiendrais sa position d'avoir deux tarifications. C'est un vrai beau pas qui est fait vers les associations carnacoises. Ça a été un vrai débat. C'était presque émouvant d'avoir un débat.
Surtout que ça concerne les associations extérieures. Mais extérieures, bon, il faudrait peut-être.
C'est pas pour les carnacois.
Non, parce qu'il y a. Non, c'est pas vrai. Parce que des associations carnacoises, à un certain degré d'utilisation des salles, peuvent se retrouver à payer. Donc ça concerne aussi les associations carnacoises. Et donc merci Pascal et bravo à Chris Lamandé pour la défense des associations carnacoises et extra-communales.
M. Guimard,
à moins que non, c'est pour les associations carnacoises, c'est toujours gratuit.
Tout à fait.
D'accord. Et pourtant, on a une association qui nous a rapporté qu'elle devait verser une somme pour justement l'utilisation de ces salles.
Quelle association ?
Cercle culturel, notamment.
Quelle association ?
Le cercle culturel.
Alors, je sais, alors sous toute réserve, hein, Chris Lamandé n'est pas là, je sais qu'il y a certaines associations qui ont énormément d'activités. Donc, qui étaient très demandeurs. Alors, quand je dis au détriment d'eux, oui, c'est parce qu'ils sont plus demandeurs. D'autres petites associations. Alors, je crois savoir qu'elle a mis un certain nombre de quotas. C'est-à-dire que s'ils en avaient besoin 5 jours par semaine, bon, c'est-à-dire que c'est 4 gratuits, 4 jours, et ça deviendrait payant le 5e jour, pour laisser la place à d'autres s'ils ne veulent pas payer. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Mais à lui demander...
On lui posera la question quand elle reviendra. Voilà. Madame Le Golvan ?
Alors, c'est bien que vous ayez précisé que cette tarification ne s'applique pas aux associations carnacoises. Mais ce que j'aurais aimé, en tout cas, parce que nous, on avait posé la question, donc aussi, cette même question. Donc, ça aurait été bien que votre bordereau soit complété, que c'était simplement... Enfin, cette tarification, les tarifications en général, dans ces cas-là, s'appliquaient essentiellement aux associations extérieures. Tant que ce n'est pas noté, pour moi, c'est... la lecture, on peut la faire différemment si on veut. Donc moi, je ne voterai pas.
On peut peut-être la rajouter sur la délibération. On peut la rajouter sur la délibération finale. On va la rajouter sur la délibération finale. Comme ça, c'est plus clair. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, une convention quadripartite relative à la capture, l'identification et la stérilisation des chats errants non identifiés. Et il y en a beaucoup, 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 beaucoup à Carnac.
Voilà, donc c'est une convention quadripartite relative à la capture, ça concerne évidemment les chats, entre la commune, la SPA, Miamax et la clinique vétérinaire Saint-Michel. À savoir que la commune verse une subvention de 1500 euros à la SPA.
Bon, est-ce qu'il y a des questions ou des...
Pardon, Yann, tu veux dire ? Ah, j'ai cru tout. C'est pareil, bravo, ça a bien avancé parce que c'est parti de loin et on pourrait remercier quelques carnacois, carnacoises qui ont dit qu'il fallait faire des choses à ce niveau-là. La mairie de Carnac avait du retard, a dû être poussée. Ça a même fait que j'ai fait des commentaires, on m'a dit, pas agréable sur un projet de convention. Donc j'en suis désolé si les commentaires n'ont pas été, sont arrivés à une manière maladroite de ma part. Je réitère mes excuses au service. Et donc félicitations pour la convention, c'est un beau pas en avant pour le sujet des animaux à Carnac, parce qu'il était délaissé, et donc bravo à vous.
Et alors, est-ce qu'il y a des votes contre ?
Une remarque, en fait... Oui. Les dispositions pour... ces dispositions, ça fait déjà pas mal d'années qu'elles sont en place. Là, on vote, je pense...
Mais il y en a qui les découvrent.
Ah, ben ils sont nouveaux aussi. Il faut leur accorder un fouet de tolérance. Donc je disais ça pour qu'ils s'imprègnent un petit peu de ce qui s'était passé auparavant.
Avant lui. Oui,
en fait, c'est simplement pour accorder une subvention exceptionnelle de 1500 euros à l'SPA. C'est surtout ça, en fait, la modification. Ce qui aurait été intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'on vote ça, c'est quand même de l'argent pour la commune. Je sais qu'à un moment, ils nous faisaient un petit topo sur justement ce qu'ils avaient réussi à faire.
Et avant, c'était il y avait une association.
Ouais, en plus, oui.
Voilà, il y avait une association et qui était une association carnacoise qui a disparu malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'à l'époque, les responsables de l'association venaient nous faire un petit exposé sur leur activité. On peut demander à la SPA de le faire s'il y a quelqu'un sur Carnac, hein, c'est sûr.
D'accord.
Enfin, il y a des endroits où j'ai des chats à la maison, mais officiels, hein, stérilisés. Mais il y a des endroits, et notamment dans la rue Collary, ils sont magnifiques en plus. Si dans le public vous voulez des chats, dans la rue Collary, il y a des chats errants, mais alors magnifiques. Il y a des petits siamois aux yeux bleus, là. N'hésitez pas, ça coûtera moins cher à la commune. Vous les prenez, vous les stérilisez, vous les pucez. Ils sont splendides.
Voilà. Non, parce que aussi.
Après, il faut les attraper, c'est pas simple. Bon, donc pas de vote contre cette proposition. On passe à la convention de partenariat avec la clinique. Enfin, c'est dans la droite.
Oui.
Dans la suite logique du premier rapport.
Voilà, on a lâché les chats, on vient chez les chiens. En fait, c'est le renouvellement de la convention qu'on avait en 2023 pour 2024. C'est le renouvellement, tout bêtement.
Parfait. Bon, j'imagine que tout le monde sera d'accord là aussi. Je vous remercie. On passe à différents rapports d'activité 2022. Hein. Je vais pas, ils ne font pas l'objet d'un vote. Hein, et vous avez eu tout loisir de lire ces rapports, donc je ne les commenterai pas. Le premier, c'est sur Morbihan Énergie, hein, dont vous avez non seulement... le patrimoine, les enjeux, la politique et la stratégie énergétique pour le département dans les années à venir qui sont décrites dans ce rapport. Et donc je vous incite, mais comme l'ensemble de ces rapports, à les lire avec beaucoup d'attention. Moi, il y en a qui m'intéressent plus que d'autres. Et je lis avec beaucoup plus d'attention celui de Haut du Morbihan. Mais celui-là est également très intéressant, et notamment... je crois qu'on a un département qui est assez innovant en termes de déploiement d'un certain nombre de productions d'énergie, notamment photovoltaïque, et des prises également électriques pour les véhicules. Et donc, je vous incite à lire ce rapport si vous avez le temps, parce qu'il est très intéressant. Donc voilà, pas de vote, Tom. Pardon, monsieur Laban.
J'avais une remarque sur le 33, donc le rapport annuel eau et assainissement.
D'accord.
Sur les gros consommateurs, donc plus de 6000 m3 par an sur Carnac, on a des entreprises qui ont des très fortes augmentations, multipliées par plus de 5 parfois même. Est-ce qu'on a des explications? Puisque, par exemple, pour prendre la thalassothérapie, on a une augmentation de 50% de 2021 à 2022.
Ça
représente 2500 m3 par an.
Pardon.
Ce qui est assez conséquent.
Ça a été une volonté, effectivement, de revoir la problématique de l'eau potable derrière, puisque je vous rappelle quand même qu'en 2022, on a été à la limite d'être en rupture. Hein. Le barrage de Tréhoret et l'approvisionnement que nous avons aujourd'hui en eau potable sur notre territoire dépend beaucoup pour les bassins de vie qui sont aux alentours de chez nous. Hein. Je pense à la Vilaine, on va pomper dans la Vilaine et on va dans le Blavet. En 2022, on a eu quand même un gros problème, c'est que la Vilaine ne pouvait plus approvisionner tout le monde. Elle devait approvisionner, bien sûr, le bassin de Rennes, ce qui est tout à fait logique. On descend au bassin de Redon, Vannes, le Golfe, et aussi Acta. Et on a eu une problématique. Alors, c'est pour ça qu'on avait étendu les réseaux et qu'on a fait des interconnexions hein, dans les réseaux au niveau de l'eau potable. Et on a pu, effectivement, se raccorder au Blavet. Pour revenir à la question, comme dit Olivier, c'était juste pour vous expliquer ça. Que derrière cette problématique-là, on a décidé qu'aujourd'hui, il y avait un tarif qui était plutôt dégressif par rapport à la consommation, et qu'aujourd'hui, c'est un tarif qui devient pas dégressif, mais le contraire, qui augmente en fonction, effectivement, de la consommation. Pourquoi ? tout simplement pour attirer, et entre autres dans cette politique-là, les gros consommateurs que peuvent être les campings, que peuvent être effectivement, tu as cité la Thalasso, on enlève le secteur industriel de cette problématique-là, je pense en tout à Kerdis, à Loco-Almadon, hein, pour cet exemple-là hein, concret. Et derrière, effectivement, à mieux gérer. Et c'est pour ça aussi qu'ACTA a fait une distribution de mousseurs, d'adaptateurs sur votre robinet pour faire mousser. Hein, c'est ce qu'on appelle la microbulle. Hein, on met de l'air dedans, comme ça on en consomme moins. Et rétablir et effectivement éviter cette problématique-là et faire prendre conscience aux gens que du coût de l'eau. On a tout simplement pour ça. Et donc, effectivement, on a des tarifs sur les gros consommateurs qui ont explosé.
Tu peux rajouter quelque chose ?
Oui.
Voilà, et qu'il y a également donc un travail qui va être mené. Il y a une personne qui a été embauchée au niveau d'ACTA pour mener un travail, pour travailler avec les entreprises grosses consommatrices pour réduire leur, voir les moyens pour réduire leur consommation.
Espérons que ce travail porte ses fruits, car la consommation de 8 consommateurs sur Carnac, c'est 8 gros industriels. Ça correspond à peu près aux volumes qui sont bipassés. Donc pour l'année passée, c'était 100 000 mètres cubes. C'est à peu près cet ordre de grandeur pour la consommation, ce qui représente autour de 10% de la consommation de la
dans
station.
Les communes, alors, dans toutes les communes, en fait, on a, en fonction de la taille des communes, on a les 10 premiers opérateurs qui consomment effectivement beaucoup plus que les citoyens lambda qui prennent généralement une douche par jour, mais pas plus. Et effectivement, dès qu'on a des campings, dès qu'on a des entreprises, dès qu'on a Kerylis qui doit laver les légumes, ça fait... Et donc, effectivement, ACTA travaille beaucoup sur ces 7, 8, 10 grands consommateurs par commune. Et je pense que ce changement de politique qui consistait à mettre fin aux tarifs dégressifs, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était illogique. Plus on consommait, moins on payait cher d'eau. On est passé à une autre logique où maintenant, en fait, on a un caractère progressif. Donc plus on consomme, plus on paye, ce qui a évidemment un caractère incitatif à limiter sa production. Donc j'espère qu'on le constatera dans les années qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les rapports d'activité, que ce soit l'eau, la gestion des déchets, l'eau potable et l'assainissement ? Madame Le Golvan ?
En fait, dans le rapport justement de l'eau et l'assainissement, on a un petit topo sur la station d'épuration de Kerguelec. Donc au niveau des travaux, on en est où ? Est-ce que
ils sont dans les temps et donc la station devrait entrer en fonction au premier trimestre de l'année prochaine.
Donc premier trimestre 2024.
Ouais.
D'accord.
Et on l'attend avec impatience parce que il ne vous a pas échappé que la pluviométrie du mois d'octobre et du mois de novembre ayant été très forte, on n'a pas pu tout traiter parce qu'on investit avec ACTA dans les réseaux d'assainissement. Il y a encore beaucoup de problèmes de porosité entre le pluvial et l'assainissement. Et donc, la commune et les ostréiculteurs, mais également tous les citoyens de Carnac, attendent l'entrée en fonction avec impatience. Mais je dois dire que le chantier, qui était un chantier compliqué, parce que tous les chantiers majeurs sur la commune sont compliqués à cause de l'entrelac de la réglementation et de la complexité de la commune, a été mené de main de maître à la fois par la préfecture, ACTA et puis les services de la commune, puisque franchement, quand on a commencé à évoquer le sujet, et je parle sous le contrôle de Pascal, jamais je n'aurais pensé qu'on aurait pu en 18 mois construire cette nouvelle station d'épuration.
Comme quoi tout est possible.
Quand l'État nous aide, oui. Quand l'État nous aide pas, non.
Enfin, vu tout ce qu'il y avait dans les journaux, je pense que même ACTA a quand même un peu accéléré les choses, et c'est très bien. Par contre, justement, par rapport à... Pardon ?
Il y avait un peu de pression.
Oui, je pense, oui. Mais ça aide, finalement.
Oui, bien sûr.
Par rapport, justement, à la réflexion de la station d'épuration, donc on parle depuis... Moi, depuis en tout cas que je suis autour de cette table, vous aussi, monsieur Lupic, donc ça fait bien 17 ans, on nous parle toujours du raccordement de la commune de Plémel à la station d'épuration. Ouais. On a vu qu'on est calibré toujours pour 60 000. Elle n'a pas été agrandie. Elle n'a été que rénovée. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il y aura une préétude quand même ? Parce que déjà, on voit bien qu'elle absorbe juste ce que la Trinité et nous-mêmes rejetons. Qu'est-ce qui va se passer alors pour Plémen?
En fait, la précédente était à 60 000, mais elle n'avait pas, dans les faits, la capacité d'accueillir les 60 000. Et c'était bien le problème, parce qu'elle recevait des eaux parasites. C'est-à-dire que si vous avez une station à 60 000 équivalents habitants, mais que l'eau de pluie arrive, ben, il vous faudrait, dans les faits, une station à 300 000 habitants. En fait, c'est exactement le problème qu'on avait. Et c'est pour ça que, parallèlement à l'investissement sur la station, qui va utiliser une autre technique, hein, en fait, il va y avoir une diversification des techniques d'épuration, pas seulement du membranaire, comme dans la station actuelle. On va avoir une station qui a une véritable capacité de traitement à 60 000 habitants équivalents. Et on va également, avec le travail qu'on fait sur les réseaux, limiter, et on le voit déjà dans les chiffres, hein, avec les premiers travaux qui ont été réalisés, limiter l'apport d'eau parasite dans cette station. Donc, si j'en crois les experts, parce que je ne suis pas un expert dans le domaine, la nouvelle station devait permettre aisément d'accueillir les eaux usées de Plémel, puisque l'infrastructure est déjà construite. Il suffit simplement d'ouvrir les robinets, mais ça ne sera fait que quand la station sera opérationnelle, testée, et les techniciens nous promettent que voilà, elle aura cette capacité.
Aujourd'hui, hein, Plémel est sur du bagunage, c'est qu'il se déverse dans le bouillon d'heure. Donc il est important que ce soit traité, qu'on soit plus en bagunage sur la commune de Plémel.
Le pot. Non, bah oui, le pauvre. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Le pauvre Guyonzer qui en a vu quand même des vertes et des pas mûres depuis une cinquantaine d'années, puisque avant, Plouarnel était également en lagunaire. Donc, on sait très bien que le fond sédimentaire du Guyonzer mettra probablement des dizaines d'années avant d'éliminer ce qu'il a reçu pendant très très longtemps. On va l'aider puisqu'on le ramène.
Sachant qu'il va être réhabilité sur 5 ans.
Tout à fait. Il y a un énorme travail qui est fait. Voilà, donc je vous avais pris connaissance de ces rapports. Je vous propose de passer au dernier rapport, Madame Gasser, sur le personnel communal, le tableau des emplois.
Alors, il convient de modifier, faire évoluer le tableau des emplois au vu d'un certain nombre de départs en retraite, de mutations et d'évolutions dans les besoins des services. Donc, la présente modification porte sur le recrutement effectif d'un directeur ou d'une directrice des ressources humaines à temps complet, la modification du poste de responsable finance RH et administratif et financier, en le séparant, et modification du temps de travail de deux postes d'agents d'entretien suite à un départ en retraite. Ce sont des personnes auxquelles on a modifié le temps de travail au vu de leur troisième collègue qui est parti en retraite.
Est-ce qu'il y a des questions, Madame Le Golvan?
Oui. En fait, moi, j'avais des questions justement par rapport au tableau, comment il est présenté. Et il y a un article qui est passé dans Ouest France. Donc voilà, les deux confondus, je dois avouer que j'avais un petit peu de mal à me repérer. Donc dans l'article de Ouest France, suite donc au départ de Monsieur Carpentier, donc Charpentier. Donc on a vu que notre DGS donc a souhaité aller dans la direction administrative et financière. Donc en effet, on retrouve au niveau de son poste, ce qui est en rouge sur nos feuilles, on le voit, donc son poste était ouvert et il a été, il est occupé, quoi. Par contre, au niveau du DGS, donc on voit aussi qu'il y avait un poste ouvert, donc évidemment poste occupé puisque la remplaçante est arrivée. Je l'ai vu tout à l'heure d'ailleurs, m'a été présentée. Par contre, dans la direction générale des services, dans ce même tableau là, on voit qu'il y a un deuxième poste de directrice générale des services. Or, dans l'Ouest France, et ça m'a interpellée quand même que ce soit écrit, c'était par rapport à Xavier Robert. On nous a toujours dit qu'il avait pris une disponibilité et que quelque part, il n'était plus dans les chiffres de la commune, de l'effectif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est en disponibilité. Est-ce que la commune continue à le payer comme c'était...
Alors, je ne crois pas. Je vais laisser justement...
Alors, Estelle, qu'est-ce que ça veut dire
Xavier Robert était... a demandé à quitter la fonction publique de mémoire, ou de, en tout cas, et donc dans le cadre de ces accords, la commune paye pendant un certain temps. Aujourd'hui, je crois qu'on ne paye plus rien. Quant à ce poste, il n'est pas clos. Je sais pas. Moi, j'ai pas. Estelle, je vais te laisser peut-être répondre.
Oui, alors, dans la présentation, les trois premières lignes, on appelle ça les emplois fonctionnels. Ce n'est pas des emplois, c'est le fait que... Moi, par exemple, je suis détachée sur un emploi fonctionnel. On est obligé de les faire abattre, mais ce n'est pas des emplois... je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, il n'y a qu'un poste de DGS. Donc, moi, je suis ingénieure principale et je suis DGS. Sur mon grade d'ingénieur principal. Mais en tant que DGS, je suis sur un emploi fonctionnel. Une commune comme Carnac peut avoir, vu la taille de sa population, peut avoir un emploi fonctionnel... C'est un emploi particulier qui est attaché au maire. Donc, en fait, les trois premières lignes, c'est postes pouvant être pourvus par détachement sur un emploi fonctionnel. Moi, je suis détachée sur l'emploi de directeur général de salle. C'est pas deux... Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça vous... C'est pas deux personnes, c'est deux postes, c'est deux emplois, mais c'est qu'une seule personne.
Y a pas non, mais la question n'est pas là. Dans le Ouest France, et je pense que ce qu'écrit l'Ouest France, en tout cas pour là... Surtout pour l'écrire, parce que ça faisait tellement longtemps que Xavier Robert n'était pas sur la
commune. Malheureusement, il ne peut pas prendre la parole, mais je ne sais pas si c'est lui qui a rédigé l'article.
Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. La petite puce à l'oreille. Il y a du dossier, monsieur de Trogoff, c'est ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand je lis, donc notre DGS, quant à elle, a accepté le poste de directrice administrative et financière de la commune, point. Agente connaissant parfaitement la ville, elle a pris la suite de Xavier Robert lorsqu'il s'est mis en disponibilité, point. À noter... que ce dernier figure toujours sur les tableaux du personnel de la mairie. C'est ça que je demande, madame. C'est pourquoi il est dans les tableaux. Et s'il est dans les tableaux, c'est vrai qu'au niveau du financement, il n'y a pas un délai où ça s'arrête. S'il fait partie des effectifs, en théorie, en tout cas, il y a eu un précédent déjà.
Alors, madame Le Goulevent, j'ai mis des années, et aujourd'hui encore, je ne comprends pas la complexité du droit... et la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales, il se peut qu'il soit toujours dans les effectifs, parce que le poste existe, mais il n'est plus rémunéré, ni plus depuis quelque temps. Aussi, il y a encore un coup.
Ben voilà.
Ok.
Eh oui.
Voilà, Pascal, puisque Pascal sait.
Alors, vous nous avez toujours certifié que c'était. Non, qu'il n'était pas rémunéré.
Non, m'emmenez pas là-dessus, parce que je n'ai pas toujours certifié. Quand quelqu'un demande une disponibilité, la commune doit continuer à l'accompagner financièrement. Je ne fais que respecter
la
loi.
J'ai posé la même question.
C'est complexe, madame. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. C'est très complexe. Ce qu'a dit monsieur le maire est tout à fait réel. Monsieur Xavier Robert a quitté effectivement la mairie de Carnac. S'est mis en disponibilité, a créé sa propre entreprise. Donc là, il était plus rémunéré par... effectivement, il avait demandé une disponibilité pour créer son entreprise. Il était plus rémunéré par le centre de gestion qui refacture à la mairie de Carnac. On est d'accord ? Il a retrouvé différents postes à droite, à gauche. Et à chaque fois, la mairie de Carnac ne le rémunérait plus. D'accord ? Tant que c'était des emplois... en CDD, excusez-moi, le terme n'est pas bon, mais vous voyez,
dans
des remplacements, il est parti, et effectivement, là, il est en ce qu'on appelle en fin de carrière, donc c'est vrai, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, s'arrêter cette année, enfin, l'année prochaine, pardon, en 2020.
Il est jeune, quand même.
Ah, il a, écoutez...
Il est plus jeune que moi.
Ah bon, ah écoutez,
il est jeune, alors.
Non, il est très jeune.
Donc voilà où ça va. Donc il faut savoir que quand vous avez des postes comme ça, vous allez au centre de gestion, d'accord ? C'est le centre de gestion, si vous n'avez pas qui vous replace. Hein. Donc si demain, M. Xavier Robert fait un remplacement dans une commune du Morbihan, effectivement, il y aura plus, ça sera la commune qui va le prendre en charge, donc plus le centre de gestion, et le centre de gestion ne refacturera pas à la commune. Ceci dit, je répète bien, il n'y a qu'une partie du salaire qui nous est refacturée, pas la totalité. Hein, la base légale, je ne pourrais plus vous dire le terme exact. Voilà. Donc effectivement, on a eu énormément, avec effectivement M. Xavier Robert, énormément d'allers-retours, qui est un peu compliqué à expliquer, parce qu'il y a un moment, quand vous posez la question, il n'y est plus. Il y a un moment, quand vous reposez la question, il peut y être. Voilà. Parce que, je vous rappelle, hein, c'est le centre de gestion. Hein. Il est au centre de gestion. Il n'est pas à la commune de Carnac.
Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il... Monsieur Luneau ?
Merci. Comme en commission finance, je vais m'abstenir parce que je ne suis pas partisan de créer un nouveau poste dont il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a eu un peu de remaniement en interne dans les services, mais il n'y a pas eu de besoin en plus. Vous avez en 2020, au début du mandat, créé un poste de collaboratrice de cabinet
pour vos convenances personnelles. Récemment, nous avons créé un poste d'assistant à la maîtrise d'ouvrage pour le projet du musée. Donc, s'il y avait des recrutements prioritaires, ils n'ont pas été faits dans le bon ordre, je pense.
C'est noté. C'est noté, monsieur Luneau. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Le rapport est adopté. Oui, oui, on a noté, monsieur Luneau. Donc, il n'y a pas de questions orales ou questions écrites de l'opposition, enfin de la minorité, mais contrairement à l'usage, eh bien, c'est une question diverse de la majorité, puisque, comme vous êtes encore très attentif, monsieur Lejean n'a pas hésité à nous expliquer et à revenir sur une question qui avait été posée lors d'un dernier conseil, sur une question passionnante qui m'empêche de dormir la nuit, celle de la fongibilité asymétrique des crédits. Et monsieur Lejean m'a demandé, alors s'il vous plaît, restez encore attentif quelques minutes, il va nous expliquer et répondre à la question à laquelle il n'avait pas pu répondre il y a quelques semaines. Monsieur Lejean.
Merci, monsieur le maire. Juste un petit rappel, hein, on a toujours dit qu'on était là pour répondre aux questions. Donc c'est Yann Guimard qui a posé les questions. Monsieur le maire a toujours dit dès le départ, on doit être capable de répondre. Donc ce que je vais essayer de faire, alors effectivement, la fongibilité asymétrique des crédits est un terme technique. Cela permet d'utiliser...
Monsieur Guimard, vous écoutez bien, parce qu'on reposera la question à un conseil utile.
Vous allez voir, ça va être très simple, parce que c'est imbuvable. Cela permet d'utiliser des crédits pour des dépenses qui n'étaient pas prévues. Grosso modo, on est dans la hauteur de 7,5%. Vous avez un petit tableau qui est avec le papier que je vous ai donné. Donc, vous avez le chapitre 11, 12, 14, 23, 42, 65, 66, 67, 68. Vous prenez l'ensemble de ces montants-là et vous pouvez modifier à la hauteur de 7,5% dans chaque chapitre sans passer par le conseil municipal. Par contre, vous pouvez tenir compte du chapitre 12 pour le montant total, mais le chapitre 12, qui est la masse salariale, ou si vous préférez, les charges personnelles, hein, excusez-moi, celui-là, vous ne pouvez pas le modifier. Vous pouvez prendre en compte le montant pour modifier les autres, et vous pouvez prendre ce montant-là, mais lui, vous ne pouvez pas le modifier. Voilà le terme technique, c'est pour ça que j'ai voulu montrer un exemple, pour que vous compreniez bien, parce qu'effectivement, la dernière fois, je n'ai pas su vous répondre correctement. C'est clair, M. Guimard ?
Alors, je vous remercie, parce que tout de suite, c'est beaucoup plus clair.
Merci.
Oui, merci. Question diverse aussi, j'ai une très bonne nouvelle. Vous allez sauter de joie. J'étais à la conférence des territoires où tous les élus étaient invités, la conférence des territoires organisée par le président de la communauté de communes, Philippe Leray. J'avais l'honneur de représenter la commune de Carnac, puisque j'étais le seul à y assister. Et c'était assez passionnant, parce que ACTA va pouvoir aider grandement les communes dans le besoin au niveau logement, avec un office foncier. C'est-à-dire que ACTA va pouvoir aider les communes nécessiteuses à acheter des parcelles pour construire du logement pour les jeunes actifs, au-delà du PLH. Et j'ai su faire valoir l'aspect, les difficultés financières de la commune de Carnac en matière de logement. Et le président m'a fait remarquer qu'il s'entendait très bien avec vous, qu'il entendait le problème du logement pour les jeunes actifs qu'on rencontrait à Carnac. J'avoue que je trouve charmant ce président et je suis vraiment content que cette voix carnacoise en faveur du logement pour les jeunes actifs soit entendue par l'ACTA et que l'ACTA soit prête à acheter des parcelles à Carnac pour...
Il y aura des Césars pour le cabotinage. Je pense que vous recevrez un prix, monsieur Luneau.
Que vous me remettriez.
Bonne soirée à tous. Le conseil municipal est terminé.